Voilà, bonjour à tous. On va commencer par demander à l'Esprit Saint de nous bien nous faire comprendre ce que le Seigneur veut dire à chacun d'entre nous ce matin. Prions. Nous avons entendu, Seigneur, dans la première partie du culte, combien ton amour est présent. J'ai envie de dire combien ton amour pèse sur nous, Seigneur. Et c'est une merveille de le savoir. C'est une merveille de le vivre aussi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as incités à venir dans ce lieu de culte ce matin pour entendre ta parole. Nous te demandons, Seigneur, qu'elle pénètre en nous, qu'elle devienne vivante, que nous puissions la mettre en pratique. Parce que cette parole, Seigneur, elle est faite pour nous faire vivre. Elle éclaire nos vies, elle éclaire notre chemin. Alors que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous, Seigneur, en chacun de nous, pour nous permettre de bien comprendre en profondeur ce que tu veux dire à chacun d'entre nous ce matin. Tu ne t'adresses pas à une foule, Seigneur, lorsque tu parles. Tu t'adresses à un cœur. Et nous sommes là, Seigneur, pour entendre, pour écouter. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà le texte que je vais vous lire ce matin. Il est très très court, mais il est très dense. Donc c'est dans la seconde épître de Pierre, au premier chapitre, et on va lire les quatre premiers versets. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Sa divine puissance, puissance de Dieu, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, la gloire et la vertu, par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Texte un peu coriace à première lecture, qui se comprend bien, mais je ne sais pas comment le manipuler un peu. On entend dire parfois qu'il est difficile aujourd'hui de vivre une vie chrétienne digne de ce nom. Et comme argument, on avance que les chrétiens sont de plus en plus minoritaires, qu'ils vivent dans des sociétés qui, par le biais des médias et des lois, véhiculent des valeurs et des comportements de plus en plus éloignés et opposés à ce qu'enseigne la Bible. En effet, certains comportements déviants qui recherchaient autrefois la discrétion, s'exposent aujourd'hui au grand jour dans des reportages télévisés, dans des films de fiction, dans la presse écrite ou au cours de manifestations de rue. Pensons par exemple au concubinage, à la concupiscence, à la gay pride, qui milite pour que soit reconnu le mariage entre homosexuels. On parle de l'avortement volontaire, qui n'est ni plus ni moins qu'un meurtre d'embryon, comme une libération de la femme. Les méthodes de management dans les entreprises occidentales s'apparentent de plus en plus à une forme moderne d'esclavage, poussant de nombreux employés à la dépression ou au suicide. Et ceci, bien sûr, pour augmenter les profits. L'exploitation des enfants et des femmes dans les domaines du travail et du sexe semble être la norme dans d'autres continents. Une multinationale toute puissante bafoue et prend le contre-pied de la loi divine qui veut que toute plante, je cite, « toute plante soit porteuse de semences ». Genèse 1, 29. Pour le profit, pour le seul profit, cette firme scélérate se sert des progrès de la biotechnologie pour bloquer la reproduction des graines d'une première récolte, obligeant les paysans à acheter de nouvelles semences chaque année. On pourrait continuer longtemps cette litanie du péché contre Dieu et contre l'homme, contre lesquels les réactions sont plutôt molles, car on finit par s'y habituer. À en croire certains, cette banalisation du péché aurait pour conséquence qu'un nombre de plus en plus grand de croyants se laisserait influencer par cette évolution des mœurs et concevrait ceci comme inéluctable, il faut vivre avec son temps, et s'opposer à cette évolution en invoquant les commandements de Dieu, c'est passer aujourd'hui pour un affreux réac. Frères et sœurs, je ne crois pas que la déchéance morale de la société puisse pervertir ou influencer en quoi que ce soit la vie chrétienne. Car les sociétés de tous les siècles n'ayant jamais été des modèles de vertu, il n'aurait jamais dû y avoir des chrétiens dignes de ce nom. Je crains plutôt que ces arguments soient des prétextes pour excuser la tiédeur de la foi et les relâchements d'une forme de vie chrétienne qui n'est plus centrée sur Christ et sur l'Écriture, mais sur l'hypertrophie de l'ego, cet ego hypertrophié qui est bien dans l'air du temps. Je fais ce qui me plaît, je fais ce qui m'arrange. Alors, laissons tomber les arguments sociologiques et attachons-nous aux arguments bibliques, les seuls qui nous maintiennent dans la vérité. Au verset 3 que je vous ai lu, l'apôtre Pierre pose clairement les choses. Je le relis. La puissance, la divine puissance du Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On peut aussi traduire tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. En d'autres termes, le chrétien a tout reçu pour vivre une foi vivante marquée par une vie de sainteté, c'est-à-dire mise à part pour Dieu et conduite par Dieu. Ne cherchons donc pas d'arguments pour trouver des excuses à nos faiblesses, puisque la puissance du Seigneur nous donne tout ce qu'il faut pour vivre une vie de foi conforme à la volonté de Dieu. Essayons de comprendre pourquoi et comment cette puissance de Dieu intervient. De nombreux passages de l'Écriture nous montrent que Dieu veut que nous menions une vie sainte. Dans la liturgie de Daniel, on en a lu quelques-unes déjà. Je vous en relis deux autres. Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. C'est quand autrefois ? C'est quand nous ne connaissions pas Christ. Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, Vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Une deuxième. Faites donc mourir votre nature terrestre. L'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens 3:5. Et on pourrait citer beaucoup d'autres passages de l'Écriture. Dieu ne s'amuse pas cyniquement à parachuter les hommes dans un monde de ténèbres morales en observant comment ils vont s'en sortir et avec la ferme intention de les punir s'ils dévient du droit chemin de la vertu. Non. Dieu ne nous abandonne pas sans armes, au milieu des forces hostiles, capables de nous entraîner loin de lui et de nous détruire spirituellement. Au contraire, Dieu est un Dieu d'amour qui nous donne, n'a pas à l'acheter, qui nous donne tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les forces, les armes, la persévérance, la volonté et bien d'autres choses encore, pour vivre une vie conforme à ce qu'il sait être la plénitude pour l'homme. Qu'est-ce que c'est la plénitude pour l'homme ? C'est une relation intime avec Dieu. Une relation intime avec Dieu vécue dans une vie de sainteté et de pureté. C'est ce que Pierre appelle devenir participant de la nature divine. On voit ça au verset 4. Pour nous conduire à cela, Dieu se sert de la puissance du sacrifice de Jésus, de la puissance du sang de Jésus qui a coulé à la croix. C'est cette puissance qui nous sauve d'abord de nos péchés et qui nous pousse ensuite à vivre une vie de sainteté. En Jésus-Christ, Dieu nous a déjà tout donné pour ne pas nous laisser corrompre par les pratiques du monde. En plus de cette puissance manifestée à la croix de Christ, Dieu nous a fait des promesses, comme le dit le verset 4. Ces promesses sont des armes spirituelles qui nous servent à vaincre les puissances du monde qui veulent nous attirer loin de la sainteté, nous aident à fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, comme il est dit dans le texte. Le mot grec traduit ici par corruption pourrait être traduit par dépravation, ruine, destruction, anéantissement. Quelles sont ces promesses ? En voici quelques-unes. La promesse de la délivrance de la domination du péché. Vous vous rendez compte ce que c'est cette promesse ? Promesse de la délivrance de la domination du péché ? Je cite Romains 6,14. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. La victoire sur le diable. Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. La victoire sur les tentations, si nombreuses dans une vie de foi. 1 Corinthiens 10,13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. L'assurance du pardon quand nous confessons nos fautes. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Le total oubli de nos fautes, le total oubli de nos fautes par Dieu. Jérémie 31-34, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La réponse à nos prières, Matthieu 21-22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Les promesses que je viens de citer, frères et sœurs, et beaucoup d'autres, sont des armes puissantes pour lutter contre les puissances des ténèbres qui voudraient nous éloigner de Dieu. Mais bien sûr, il faut s'approprier ces promesses. C'est quoi s'approprier? C'est ne pas douter. Ne pas douter qu'elles produisent ce qu'elles affirment. Et c'est la raison pour laquelle la stratégie de Satan consiste à distiller le doute dans nos pensées par rapport à ses promesses, nous amenant ainsi à relativiser ce qu'elles promettent. Je prendrai un seul exemple. La promesse du pardon des péchés. La promesse dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Frères et sœurs, il n'y a pas besoin d'avoir fait de la théologie ou d'explication de texte. C'est clair et c'est limpide. Tout le monde peut le comprendre. Et pourtant, nombreux sont les chrétiens qui portent sur eux un fardeau écrasant sur leurs épaules parce qu'ils ne sont pas certains que Dieu les a pardonnés. C'est terrible. Pourquoi? Parce que Satan est arrivé à mettre un doute dans leur esprit en employant toutes sortes d'arguments. En voilà un ou deux ou trois. Dieu ne pardonne pas ce péché-là. Ou bien, ce que tu as fait, c'est vraiment trop grave. Regarde les conséquences. Ou bien, mais tu as déjà demandé pardon plusieurs fois pour ce même péché et tu as recommencé. Alors, c'est fini. Dieu ne te pardonne plus. Comment se fait-il que des chrétiens accordent plus d'importance aux pensées que leur suggère le diable qu'à la parole de vérité? Pourquoi ne prennent-ils pas au sérieux les paroles que Jésus lui-même a prononcées sur le diable? Je cite, « Il a été meurtrier dès le commencement. » Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Ne laissez jamais le doute s'installer dans votre esprit. Chassez-le en proclamant à haute voix les promesses de Dieu appropriées à votre situation. C'est un combat parfaitement normal auquel sont confrontés tous les croyants sans exception. Mais comme le dit le texte, tout nous est donné pour le remporter, ce combat. L'apôtre Jacques confirme ceci, ce que je viens de dire à l'instant. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il n'a pas dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et peut-être il fuira loin de vous, si vous êtes dans un bon jour, et puis si lui, il a pitié de vous ce jour-là. Vous comprenez, je grossis le trait. Non. Si vous vous soumettez à Dieu et si vous résistez au diable, il fuira loin de vous, exactement comme il a fui lorsque Jésus lui a résisté. Matthieu 4, 11. Parce que Jésus était soumis à son Père. Pourquoi croyez-vous qu'on nous raconte cette histoire de tentation? Parce que Jésus, tout fils de Dieu qu'il était, lorsqu'il était sur la terre, c'était un homme. Il a subi exactement les mêmes choses que nous. Et il les a vaincus. Et c'est pour ça que nous avons cette certitude aussi de vaincre. Comment expliquer l'échec ou la victoire? Ben c'est assez simple. Lorsqu'un chrétien doute face aux promesses de Dieu, cela signifie quelque part qu'il ne se soumet pas à Dieu et à sa parole. Alors Satan ne craint rien, car il a en face de lui un homme qui n'utilise pas les armes que Dieu lui a données, autrement dit, c'est un homme désarmé. Et il va pouvoir le manipuler pour l'amener à douter de plus en plus. Et si possible, ça c'est le top pour lui, à douter même de l'existence de Dieu. Ne rions pas, ça s'est passé souvent dans l'histoire, même de la part de pasteurs. Au contraire, lorsqu'un chrétien est ferme dans sa foi aux promesses de Dieu, Satan ne peut pas lui résister longtemps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas affaire à un homme armé de sa seule raison ou de ses seules forces. Il a affaire à un homme armé de la puissance de Dieu contenue dans les promesses. Dans les promesses de Dieu. Ce ne sont pas des simples mots, des simples signes en écriture noire sur une page de papier. C'est une puissance qui nous est donnée. Et Dieu nous demande de nous en servir, c'est les armes qu'il nous donne. Et Satan sait qu'il est déjà vaincu par Christ. Il le sait, vaincu par Christ à la croix. Mais retenons aussi une chose très importante. La victoire n'est jamais acquise définitivement. Ah bon? Non. Aussi longtemps que nous vivrons, le diable reviendra à l'attaque pour essayer de nous faire chuter. D'où tu sors ça, pasteur? Je le sors de l'Écriture. Écoutez bien ce qu'écrit Luc après avoir raconté l'épisode de la tentation de Jésus, dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Voilà ce qu'il écrit. Après avoir achevé de le tenter, là c'est Jésus, le diable s'éloigna de lui. Mais il ajoute quelque chose d'autre. Il ajoute jusqu'à une autre occasion. Frères et sœurs, ce qui s'est passé avec Jésus, ça se passera obligatoirement avec nous. Et c'est la raison pour laquelle je dis que la victoire n'est jamais acquise définitivement. D'où l'importance d'être en communion avec Dieu le dimanche matin, aux grandes rencontres écuméniques, Non. Chaque jour. Chaque jour. Je relis ce que Pierre a écrit. Dieu nous a accordé de précieuses et très grandes promesses afin qu'en recevant ce qu'il a promis, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Je souligne, afin qu'en recevant ce qu'il a promis, ça veut dire quoi recevoir ? Ça veut dire afin qu'en vous appropriant, afin qu'en nous approprions ce qu'il a promis. Une promesse qu'on ne s'approprie pas, c'est un mot. C'est comme le brouillard matin sur Saint-Rémy-sur-Durolle. Je le vois, mais au coup de 11 heures, il s'en va. Une promesse qu'on ne s'approprie pas, ça n'a pas de force. Une promesse qu'on s'approprie. Les jeunes diraient, c'est du béton. C'est du béton. Et c'est la puissance que Dieu nous donne pour vivre dans ce monde et pour fuir la corruption qui nous entoure. Ne relativisons pas les promesses que Dieu nous offre. Elles sont aussi indispensables pour résister à la corruption du monde et pour entretenir notre vie de communion avec Dieu, aussi indispensables que l'air qu'on respire pour continuer à vivre. Méditons-les, apprenons-les par cœur, méditons-les pour nous les approprier chaque jour davantage. Et rendons grâce à Dieu pour la puissance de vie qu'elles contiennent, ces promesses. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre notre intelligence spirituelle pour mettre en pratique ce que ce texte de Pierre nous dit. Apprends-nous, Seigneur, à nous approprier ces promesses qui sont faites pour nous, ces promesses qui sont vraies.